un lieu très distinct et que si l'on la choisit à la place du ciel, on découvrira qu'elle n'a jamais été qu'une région de l'enfer. Si au contraire, on la met après le ciel, on s'apercevra qu'elle a toujours fait partie du ciel. On peut peut-être essayer d'expliquer, non ? Je paraphraserai ce que dit C.S. Lewis de la manière suivante. Où nous attendons tout de ce monde, et celui-ci se révélera tôt ou tard être une forme d'enfer, où nous attendons tout de l'autre, et nous aurons alors et la terre et le ciel, puisque la conjonction des deux est le royaume de Dieu. La transformation de la terre en paradis par la venue du royaume. En d'autres termes, la question que nous pose Pâques, même à nous chrétiens, peut-être même surtout à nous chrétiens, est la suivante. Qu'attendons-nous ? Les non-chrétiens, et c'est normal, attendent tout d'ici-bas. Leur espérance est dans l'amélioration de ce monde, dans les avancées scientifiques, dans la foi en l'homme, centre pour eux de toute chose. Mais peut-on, en tant que chrétien, avoir la même forme d'espérance ? Nous qui sommes habités par le Saint-Esprit et au bénéfice de l'espérance qu'il place en nous en l'avènement du royaume de Dieu. Peut-on se contenter de l'enfer, pour reprendre l'expression de Lewis, alors que le Christ nous ouvre les portes du paradis ? La résurrection de notre Seigneur en avril de l'an 30, le tombeau vide, la nuée de témoins, l'ayant vu ressusciter, la foi que nous plaçons en cette vie nouvelle dans laquelle il nous introduit, nous impose un changement de modèle, un changement d'espérance. Christ est en nous, nous qui avons cru en lui, en son œuvre de salut, nous dit Paul, et dès lors, la gloire, le royaume de Dieu, nous est réservé en espérance. Alors pourquoi en espérance ? Ben, vous l'aurez remarqué, le royaume de Dieu, bien qu'étant en nous, n'est pas encore venu. Et c'est d'ailleurs bien pour cette raison-là que nous sommes appelés, pour le moment, à l'espérer. L'œuvre de la communion d'amour avec Dieu par son Saint-Esprit devrait, tous les jours davantage, nous faire espérer la venue du royaume de Dieu sur la terre. Quand j'étais jeune chrétien, même si je connaissais ces choses, je ne peux pas dire que tous les matins, en me levant, j'aspirais à ce que le royaume vienne. Plus de 30 ans plus tard, je ne vais pas vous cacher qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à la venue du royaume, où j'y aspire à cette venue. La résurrection de Jésus annonce cette venue, sa résurrection, garantissant la nôtre et l'accès à ce royaume. Dieu ne nous promet donc pas une amélioration du monde présent, mais sa transformation totale. Jésus, par sa résurrection, n'est pas revenu à sa vie précédente, comme par exemple Lazare et tous ceux et celles qu'il a ressuscités durant son ministère terrestre. Il a ouvert la voie vers une vie totalement nouvelle, inconnue jusqu'alors. C'est la raison pour laquelle ses disciples, après sa résurrection, ne le reconnaissent pas immédiatement, ou pas vraiment. C'est bien Jésus, mais tout est changé. Alors en tant qu'hommes et femmes habités par la vie nouvelle, devons-nous déserter ce monde ? Nous enfouir dans quelques grottes ? Nous retirer du monde car il ne serait déjà plus le nôtre ? Pour répondre à cette question, il faut rappeler ce que Dieu a fait de nous par la résurrection de son Fils et notre participation à celle-ci. Autrement dit, quelle est notre vocation ? Je pense que c'est l'apôtre Pierre qui nous aide le plus à y voir clair. Je prends ce texte dans la première épître de Pierre. Mais vous, il s'adresse bien entendu à des frères et sœurs dans la foi, mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Le royaume de Dieu est en nous, mais notre vocation est de le manifester en ce monde. Alors comment puis-je affirmer que notre vocation est de manifester le royaume en ce monde ? Parce que Pierre ne semble pas en parler dans ce passage. En fait, si, il le dit. Il le dit en utilisant une formule qui ne laisse en fait aucun doute. Christ, par sa mort et sa résurrection, a fait de tous ceux et celles qui ont placé leur foi en son œuvre de salut une communauté de rois-prêtres. Nous sommes des rois et des prêtres. On va donc essayer de s'arrêter un instant sur cette formule et posons-nous la question, à quoi ça sert un prêtre ? À quoi sert le prêtre que je suis ? Et à quoi sert un roi ? Alors Pierre était juif, vous le savez comme moi. Il connaissait donc bien la signification du sacerdoce des prêtres qui officiait dans le temple de Jérusalem. Le prêtre dans l'Ancienne Alliance représentait l'homme auprès de Dieu. Alors que le prophète, par exemple, représentait Dieu auprès de l'homme. Autrement dit, un peuple qui a vocation à être prêtre est un peuple qui sert de médiateur entre Dieu et l'humanité. Alors, vous me direz sans doute, en bon petit protestant, que c'est le Christ qui est le seul médiateur entre l'homme et Dieu, et vous aurez raison de le rappeler. Notre Seigneur Jésus est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Mais nous qui sommes son corps, nous qui sommes l'Église, la continuation de sa présence en ce monde, nous participons bel et bien à la médiation entre l'homme et Dieu. Précisons encore que cette médiation dont je parle est en faveur de la conversion des hommes, bien entendu. Alors, qui d'autre que les prêtres que nous sommes, des hommes et des femmes ayant accès à la communion la plus intime avec Dieu le Père, pourraient témoigner de la réconciliation possible de l'homme avec Dieu ? Qui pourrait en parler, en fait, à part ceux qui sont au bénéfice de cette réconciliation ? D'ailleurs, n'agissons-nous pas souvent dans notre vie de prière comme le grand prêtre de l'Ancienne Alliance demandant le pardon de Dieu pour le péché du peuple d'Israël. Rappelez, hein, quand il rentrait pour une fois par an dans le lieu très saint pour demander le pardon pour ses péchés et ceux de son peuple, et quand il ressortait vivant, parce que ce n'était pas toujours le cas, de l'autre côté du temple, il pouvait annoncer la bénédiction de l'Éternel sur la nation d'Israël. Nous avons la même vocation. Si ce n'est que notre vocation à nous est d'élargir au monde entier cette demande de pardon et de faire nôtre la prière de notre Seigneur sous la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cela ne vous arrive-t-il jamais de prier pour le salut d'un ami, d'un fils, d'une fille, d'une voisine, d'un voisin, ou de demander pardon à Dieu à sa place d'une parole ou d'un acte allant à l'encontre de Dieu? Nous n'avons pas à défendre l'honneur de Dieu, pas à nous mettre en colère, pas à nous énerver face à ce genre d'attitude, mais à intercéder pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu, ou parfois même qui ne veulent pas le connaître. Donc dans tous ces cas de figure, que devons-nous faire si ce n'est justement offrir notre médiation en faveur de ces personnes au nom de Jésus? Pas en notre nom, bien sûr, mais en nous identifiant au Christ et à la personne pour laquelle nous prions. L'Église a un rôle tout simple, c'est de mettre en relation les non-croyants avec Dieu. Elle n'est pas belle la vie, hein ? Mais nous ne sommes pas seulement prêtres, nous dit Pierre, nous sommes aussi rois, héritiers du royaume. Alors qui hérite d'un royaume si ce n'est un prince qui est appelé à devenir roi? Notre fonction royale, héritée là encore de notre Sauveur et Seigneur, consiste à porter la paix et la justice parmi les hommes. Et comment est-ce qu'on fait ça? En défendant le faible, l'opprimé, le sans grade, le sans dignité, l'orphelin, la veuve. Vous pouvez allonger la liste. C'est pas ça qui manque. Les migrants, prendre leur défense. Nous aurons compris que la fonction royale qui est la nôtre constitue une énorme responsabilité parce que c'est l'œuvre de celui qui veut amener la paix et la justice au sein de l'humanité. Et les chrétiens que nous sommes ne peuvent exercer qu'en obéissant à un critère bien spécifique, en modelant notre propre royauté sur celle du Christ crucifié, le Messie qui règne depuis le bois de la croix, selon la très belle expression de Justin Martyr. Et être sur la croix signifie assumer la souffrance, la condition de victime, la soumission à l'injustice et à l'humiliation, être du côté de ceux qu'on humilie, quitte à être humilié soi-même. C'est la seule manière, mes amis, de manifester la nature messianique qui est la nôtre, la nature de roi qui est la nôtre. C'est en vivant comme il a vécu que les chrétiens que nous sommes pourront témoigner devant tous les hommes que nous sommes réellement un peuple sacerdotal et royal, un peuple qui cherche à faire briller dans le monde la miséricorde de Dieu. Veillez alors que tous sont endormis. Aimez alors que ce mot n'est souvent plus qu'un synonyme d'utilisation de l'autre à des fins personnelles, distorsion des sentiments. Agir au nom du Christ alors que les égoïsmes sont légion. Redire par notre vie que l'Évangile est un appel à sauver l'homme de ce qui le menace, à savoir ne plus vouloir en être un d'homme, en abandonnant toujours davantage l'image de Dieu en lui, en l'effaçant, comme s'efface la buée sur une vitre. L'Évangile est le seul humanisme, car Dieu est le seul humaniste digne de ce nom, car il faut mettre Dieu au centre pour que l'être humain advienne. L'homme ne peut devenir pleinement humain que si Dieu le dynamise de sa vie, de son Saint-Esprit. L'homme a besoin de naître de nouveau, de se laisser ressusciter avec Christ, seul humain digne de sa vocation. Alors que l'on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, qui consiste à terme en un effacement, une abolition de l'homme, de sa prééminence sur le créé, au profit, quand on y réfléchit, de sa propre créature, qu'il aura lui-même créée à partir de lui, et qui est une caricature de la relation entre Dieu et l'homme, et de la chute en Éden, parce que sa créature à lui le trahira, lui aussi. Pâques nous redit le sens profond de l'être humain, être en relation avec Dieu et les autres. Nous sommes déjà appelés à cela en ce monde, car nous sommes d'ores et déjà ressuscités, vivant de la nouvelle vie de Dieu en nous, tout en demeurant conscients de notre double responsabilité de prêtre et de roi envers ce monde. Mais en même temps, et nous pouvons parfois le vivre comme une tension intérieure, nous attendons et appelons de nos voeux le royaume qui vient, cette nouvelle création qui unira le ciel et la terre. D'ailleurs, notre ami Pierre, dans cette même épître, dit que notre vie en ce monde est un pèlerinage, un parochia en grec, quelqu'un qui demeure en terre étrangère. C'est le sens littéral de ce terme. Ce qui veut dire comme Israël a connu son exode hors d'Égypte et vers la terre promise, nous connaissons le nôtre en tant qu'Église. La résurrection de notre Seigneur, tout comme la sortie d'Égypte, est pour nous passage, transhumance de liberté, libération du péché, de la mort et du diable. Nous voici donc sortis d'Égypte, du pays de servitude, appelés à devenir ce que Dieu a fait de nous, un peuple libre. Mais nous n'avons pas encore atteint notre terre promise à nous. Le dimanche de Pâques a changé notre attente. En tant que pèlerins et voyageurs sur cette terre, qui est notre désert à nous, mais aussi notre lieu de mission et de changement, nous affrontons la vie comme membres d'un peuple racheté et ressuscité, attendant son entrée en terre promise, le royaume de Dieu. Et de là la promesse que fait Jésus à ses disciples dans l'évangile de Jean, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que où je suis, vous y soyez aussi. Une place dans les demeures éternelles du Père. Alors les chrétiens résident chacun dans sa propre patrie, nous en avons une, nous sommes en Belgique, mais comme des étrangers domiciliés. Les chrétiens s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. L'Église est en chemin sur la terre, mais elle n'a de cité que dans les cieux. Elle est encore sur la terre, mais elle est du ciel. La résurrection de notre Seigneur Jésus ouvre à un avenir non encore survenu. parce qu'il n'est pas revenu à son ancienne vie, mais est entré dans une vie totalement nouvelle. Ce qui signifie qu'il met au monde, par sa victoire sur la mort, la certitude de l'avènement d'un monde nouveau que le monde tel que nous le connaissons ne peut pas envisager. Car il ne vit que dans l'espoir d'une amélioration de ce qui est déjà et pas dans l'espérance d'un changement radical. En revanche, nous l'avons vu, il ne faudrait pas en déduire pour autant une désertion du monde, mais au contraire l'investir, habité par l'espérance introduite par Jésus d'un royaume qui vient bientôt. D'ailleurs, l'Église n'est rien d'autre qu'un peuple témoin. Le peuple nouveau qui annonce aujourd'hui, en espérance, ce que Dieu fera demain pour l'éternité. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Notre Seigneur est vraiment ressuscité. Amen. Prenons un temps pour justement le louer, exprimer notre joie, sa joie de ce qu'il est vivant au milieu de nous et en nous.